Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral et c'est maintenant le moment de notre émission mensuelle Un moment pour la Terre, une émission proposée et animée par France Nature Environnement 04. Habituellement nous avons Martine Vallon mais aujourd'hui nous avons d'autres personnes invitées pour nous parler du thème de la gestion forestière. Avec nous donc Richard Fay, ex-technicien de l'ONF.
Bonjour, c'est ça.
Bonjour. Et puis, vous êtes aussi impliqué dans le collectif, on verra tout à l'heure, le collectif SOS Forêt du Sud. Et puis, avec vous, donc, Pierre Honoré, administrateur à France Nature Environnement 04.
Bonjour.
Et nous allons donc tout de suite commencer cette émission avec un petit... une description de à quoi ressemble, par exemple, la forêt régionale PACA. Qui commence ?
Je crois que je vais commencer sur cette partie de descriptive de la forêt. Voulez-vous un mot sur le collectif SOS Forêt ?
Alors oui, on peut tout de suite savoir donc un collectif qui est créé depuis 2013. Dans quel objectif ?
C'est ça. C'est de l'émotion qui a suscité la conversion de la centrale, d'une centrale de Gardanne au bois énergie. C'est une centrale à charbon initialement qui a fait l'objet de modifications pour pouvoir brûler du bois et produire de l'électricité. C'est une décision qui a été prise en 2010-2011, sans entrer trop dans le détail. Et on a eu l'information sur les environs de Fort Calquier qu'en 2013, et on s'est rapidement organisé, on a rapidement pris la mesure du risque du gaspillage que faisait... Que causait cette centrale qui brûle, qui va brûler à peu près 1 100 000 mètres cubes de bois et qui va en rejeter les deux tiers dans l'atmosphère sous forme de chaleur, de dissipation. Le rendement est très faible. Alors, selon les expertises, entre 30 et 40%, donc c'est très faible. On gaspille du bois. On peut peut-être faire autre chose de ça. Et le deuxième point qui nous a alerté, c'est que cette demande est énorme par rapport à la ressource des forêts régionales. Donc voilà, d'où création d'un collectif, des bonnes volontés qui se sont mises ensemble, sous un peu... alors, il y avait Pierre Honoré, donc, qui était élu à cette époque, qui a très fortement participé à l'élaboration de ce collectif. Radio Zinzine également s'est mis de la partie. Et voilà, on est parti là-dessus avec des gens de Gardanne, avec toute l'action a découlé de ça.
Les élus du parc du Luberon aussi qui ont très rapidement rejoint le mouvement. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner, Richard, une image de la forêt régionale à quoi elle ressemble?
Voilà. Bon, essayer de se faire une idée de cette forêt régionale. C'est grand, hein, la région. Hein. Ça va du bord de mer, ça va aux Hautes-Alpes. Donc, c'est difficile de se faire une idée moyenne. Mais on a quand même pas mal d'indications qui nous sont fournies, notamment par l'inventaire forestier national, l'IFN, qui nous dit déjà que notre forêt régionale occupe 1,5 million d'hectares de la région PACA, ce qui fait 50% à peu près, 50% du territoire PACA, qui est vraiment beaucoup par rapport à la moyenne nationale, qui, elle, est de 30%. Donc on a déjà une forêt importante, un territoire forestier qui est important. Ça n'est pas, bien sûr, c'est un territoire forestier moins important dans les Bouches-du-Rhône, moins important aussi dans les sommets des Hautes-Alpes. Donc à chaque fois, on va retrouver la forêt dans les collines, dans les basses montagnes, dans le Var notamment, les Alpes-Maritimes, qui eux ont des taux de boisement de plus de 60%. Alors que les Bouches-du-Rhône, par exemple, c'est de l'ordre de 20%. En regardant de plus près tous ces chiffres de l'IFN, on découvre aussi que la proportion des feuillus et des conifères est à peu près égale. C'est une forêt qui a 50% de feuillus, 50% de conifères. Parmi les feuillus, on découvre que c'est le chêne pubescent qui est l'essence principale. On parle d'essence, hein, en termes de forestier, on dit pas espèce. C'est l'espèce d'arbre, en fait. C'est un terme forestier. On parle d'espèce d'arbre. D'essence, pardon. C'est le chêne pubescent pour les feuillus qui est dominant. Il représente 50% des essences feuillues, alors que chez les conifères, c'est le pin sylvestre qui, lui, représente 40% des espèces de conifères. À eux deux, ils occupent à peu près entre un quart et un cinquième de la superficie boisée. C'est l'essence qui domine, bien sûr. Il y a toujours des essences accessoires. Hein. Et puis, en dernier lieu, on va pouvoir découvrir que la forêt, la propriété forestière est tenue par les propriétaires privés. Les propriétaires privés possèdent 65% de la forêt régionale. Le restant étant constitué propriété de la forêt publique, donc 10% de forêt domaniale et 25% de forêt communale.
Et c'est énorme, 65%
de forêt privée. Oui.
Oui,
Oui, c'est beaucoup. Mm-hmm. Ça permet, c'est des choses à savoir au préalable, ça permet de préciser quand même la structure de la forêt, bon, bien sûr à quoi elle ressemble, et surtout qui la possède et qui peut intervenir, qui a des droits de possession, d'intervention sur cette forêt. Et le dernier point que je souhaiterais aborder pour finir l'image, c'est les zones inaccessibles ou inexploitables de la forêt régionale. C'est vraiment une particularité de la région qu'on retrouve dans d'autres montagnes, bien sûr, comme les Pyrénées. Chez nous, ça représente 25% quand même du territoire, des espaces forestiers qui ne sont pas exploitables.
Alors pourquoi ils ne sont pas exploitables ?
Alors une partie n'est pas exploitable simplement parce que sont inaccessibles, ne seront jamais accessibles. Pensez aux certains mélésins des Hautes-Alpes, on n'y ira jamais. Et puis une bonne partie aussi fait l'objet de statuts de protection. En termes de statut de protection, ça veut dire que c'est des espaces boisés classés, ce sont des réserves biologiques intégrales pour les statuts de protection les plus durs, ce sont des classements paysagers.
Des zones Natura 2000.
Des zones Natura 2000, mais les zones Natura 2000 restent encore dans les zones exploitables.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ça ne fait pas partie des zones inexploitables, en fait. Moi, j'entends, les 25% sont des zones où on ne pourra pas faire entrer un tracteur ou une tronçonneuse parce que le statut de protection l'interdit. Des sites classés, comme dans les gorges du Verdon, il n'y aura plus d'exploitation, quoi. C'est toutes ces zones-là. Alors, ça n'est pas forcément les zones les plus productives, bien sûr. Hein. Il faut bien qu'on soit d'accord. Mais en termes de superficie, c'est quand même 25%. C'est un quart quoi, de la forêt régionale, alors que sur le territoire national, on tourne entre 5 et 7%. Voilà. Donc l'image qu'on pourrait garder de la forêt régionale, c'est une forêt privée, essentiellement, de moyenne montagne, et avec des essences naturelles, abondamment garnies d'essences naturelles qui sont mélangées, mixtes. Voilà, pour l'image de la forêt.
Alors, est-ce qu'on parle de sous-exploitation de la forêt ou pas ?
Alors,
est-ce qu'elle est sous-exploitée, cette forêt, en région PACA ?
Voilà la question qui est au cœur des débats depuis de nombreuses années, je dirais presque depuis 2007, 2009, si, pour les auditeurs qui se souviennent d'Urmat, des discours d'Urmat. Mmh. C'est là où les pouvoirs publics et la profession a avancé l'idée de sous-exploitation de la forêt. On parlait à l'époque de 20 millions de mètres cubes qui étaient pas cachés, mais qui n'étaient pas exploités, dont 12 millions de mètres cubes de bois énergie. Et depuis, cette idée est restée dans les esprits. Elle est avancée régulièrement par les pouvoirs publics et par les acteurs, par les professionnels, et les reprises souvent sans trop de discernement par la presse, sans trop de recherche, quoi. Donc on va essayer
de corriger,
de préciser un peu ça. Pour préciser ça, je vais être obligé de parler un peu de chiffres quand même, de continuer l'image de la forêt méridionale, de la forêt provençale, PACA, la régionale, hein, en parlant du volume qui est contenu dans la forêt. Parce que c'est l'autre grandeur, une autre grandeur de cette forêt. Alors, toujours pareil, l'inventaire forestier national nous donne des chiffres statistiques. En 2014, il nous disait qu'il y aurait environ 118 millions de mètres cubes de bois dans la forêt régionale, de bois sur pied. Donc 60% en forêt privée, on est toujours à peu près dans la même proportion entre par rapport à la superficie. 65% de forêt privée en superficie qui détiendrait 60% du volume de bois. Par contre, on a une divergence sur les proportions, c'est entre feuillus et résineux. L'essentiel des volumes, c'est les conifères. Sont dans les conifères, qui représentent à peu près 70% de ces volumes sur pied, alors que les feuillus représentent 30%. Un chiffre qui peut illustrer aussi ce volume sur pied, c'est le volume à l'hectare, dans un volume moyen, toujours pareil, hein, dans les forêts PACA, qui est autour de 90 mètres cubes par hectare. Et si on veut encore affiner un peu cette image, on s'aperçoit que le Var, qui est le département le plus boisé même de la région, est aussi le département qui a le plus faible volume hectare, avec 60 mètres cubes par hectare, ce qui est en dessous de la moyenne. Alors que les Hautes-Alpes, qui est un des départements à peu près moyens en termes de boisement, présentent des forêts qui possèdent à peu près 125 mètres cubes hectare, ce qui est la moyenne haute de la région. Ce sont des moyennes, ce sont des chiffres 2014, c'est toujours à prendre avec précaution, mais c'est quand même des indications pour les décideurs et pour la réflexion. Donc la forêt des Hautes-Alpes présente le double du volume du Var. Et puis, une dernière précision, on se rend compte aussi en regardant ce volume par hectare, c'est la forêt publique qui, globalement, présente le plus fort volume hectare de 112 mètres cubes hectare, alors que la forêt privée n'en contient que 77. Et si on veut encore préciser, parce que moi je souhaite, oui, c'est quelque chose que je souhaite aborder, c'est ouvrir un peu le regard sur les autres pays européens, au moins des pays qui sont dans la même zone climatique, comme l'Italie, comme la Serbie, qui eux affichent des volumes de 150 mètres cubes hectare. Tout ça pour dire que l'autre image qu'on doit avoir de notre forêt régionale, c'est une forêt où le volume de bois n'est pas énorme finalement, et ce qui traduit quand même une forêt qui est dans son jeune âge. Si on la laissait vieillir, on aurait des volumes qui seraient plus forts, c'est évident. On est une forêt, globalement, qui est constituée sur des reprises agricoles, sur d'abandon de terrain, de friches qui s'enforestent. Et on a donc cette forêt jeune qui est là à notre disposition. Est-ce que je précise encore, je continue un peu?
Oui, allez-y.
Bon. Et une dimension volume aussi à aborder, c'est l'accroissement annuel de la forêt. Ça fait partie des chiffres, la bataille des chiffres entre les professionnels, entre le collectif par exemple. L'accroissement annuel de la forêt. La forêt, tous les ans, pousse. Les arbres font un cerne d'accroissement. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de quantifier, que font bien les techniciens de l'IFN par des méthodes statistiques. Cette notion d'accroissement annuel est intéressante parce que ça va nous donner la ressource potentielle tous les ans qu'on pourrait prélever sans entamer le capital, sans gréver ce qu'on va laisser aux générations futures.
Quand on parle de forêt jeune, ça veut dire quoi en fait ?
La moyenne pour une quarantaine d'années.
Une quarantaine d'années.
Oui. Mm-hmm. C'est un peuplement moyen, bien sûr. Mm-hmm. Hein. Donc l'échelle des âges, ça va aller de 0 à 120 ans ou 130 ans. Mm-hmm. Mais l'âge moyen, figuré par le peuplement moyen, ça serait une quarantaine d'années. Mm-hmm. Alors, on voit tout de suite la différence, par exemple, entre la forêt domaniale, qui a des peuplements d'une moyenne beaucoup plus âgée, notamment en montagne, et des forêts, par exemple, du Var, où il y a beaucoup de recrues, beaucoup de terrains abandonnés où la forêt s'est réinstallée, qui présentent des figures jeunes. N'hésitez pas à me poser une question, parce que je peux être un peu trop technique parfois. Voilà. Donc, je reviens sur cet accroissement annuel qu'il est intéressant de quantifier. L'IFN propose la production biologique annuelle, un chiffre de production biologique annuelle qui serait de 3 millions de mètres cubes par an sur la région PACA. Elle mesure aussi la mortalité naturelle de ces arbres, qui est de 450 000 mètres cubes par an. C'est des chiffres statistiques, chiffres 2014, c'est une base de réflexion. Ce qui donnerait, si on n'oublie pas que la forêt exploitable ne concerne que 75% de la superficie, ça nous donnerait une ressource, un accroissement disponible de 2 millions de mètres cubes environ par an sur la région PACA, le maximum. C'est insuffisant pour dire est-ce qu'on va récolter ces 2 millions de mètres cubes, est-ce qu'on ne va pas les récolter ? Si on les récolte, on va laisser la forêt à peu près dans le même état. Elle ne grandira plus, elle ne grossira plus. Alors maintenant, la question à se poser, c'est quelle forêt on veut pour demain ? Est-ce qu'on veut qu'elle continue à rendre les services qu'on attend d'elle, notamment la protection des sols, de l'eau, des terres en montagne et la fixation du carbone. C'est avec ces ensembles de réflexions qu'on peut approcher la production annuelle et l'accroissement annuel.
Oui. Alors, on passe à la question suivante. On parle de biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse ?
Oui. Ce que vient de dire Richard, c'était vraiment une base très technique sur l'évolution de la forêt. Et là, on va aborder vraiment le point de la gestion de la forêt, si vous le voulez bien. Les principes qui guident cette gestion forestière et qui sont admis par la plupart des acteurs publics ou privés. Donc ce que je veux dire, c'est que la forêt, elle est gérée. Dans notre pays, il y a des acteurs qui se préoccupent de cette gestion, mais par contre, le public, lui, n'a pas véritablement connaissance de la façon dont sont prises les décisions de gestion. Alors,
et notamment quand il y a 65% de forêts privées, comment voilà. Ça se passe pour ces propriétaires ?
Pour la forêt privée, il existe un organisme qui s'appelle le Centre au niveau régional CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, qui est un organisme qui, un peu en analogie avec l'ONF qui, lui, gère la forêt publique, intervient sur les forêts privées pour donner aux propriétaires les moyens de mieux connaître leur patrimoine et de bien le gérer. Alors, il y a une petite limite, c'est que les propriétaires forestiers ne sont tenus de mettre en place des plans de gestion sur leur propriété forestière qu'à partir du moment où ils accèdent à une surface excédant 25 hectares. En deçà, il n'y a pas de nécessité d'avoir un plan de gestion simple de la forêt. Ce qui fait que énormément de propriétaires n'ont pas ce plan de gestion. Et aujourd'hui, les autorités souhaitent essayer de regrouper ces propriétaires de façon à ce qu'on ait des groupes des surfaces suffisantes pour pouvoir organiser cette gestion. C'est un peu l'objectif de ce programme national de la forêt qui a été mis en place en application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, donc cette fameuse loi LAF qui a défini pour une période de 10 ans, de 2016 à 2026, un programme de gestion de la forêt. Donc ce programme, je vais vous en donner les quatre objectifs et qui sont accompagnés d'un plan d'action et les modalités de sa déclinaison au niveau national et en région. Donc parmi ces objectifs, le premier vise à augmenter les prélèvements de bois en France, en précisant qu'il souhaite assurer le renouvellement de la forêt. Le second objectif, lui, entend intégrer pleinement les attentes des citoyens vis-à-vis de la forêt. En effet, la forêt est à la fois un lieu récréatif, un espace de préservation de la biodiversité qui assure des paysages de qualité. Elle est également une source d'emploi dans les territoires et de richesses économiques. Enfin, nous dit l'objectif, elle permet l'approvisionnement en bois pour se chauffer et pour produire de l'énergie. On y reviendra. Le troisième objectif se construit autour de la prise en compte du changement climatique. la forêt a un grand rôle à jouer dans l'absorption du carbone et donc dans la réduction des gaz à effet de serre. Et le quatrième objectif, lui, vise à créer des débouchés aux produits issus de la forêt française et d'adapter la gestion des forêts aux besoins du marché pour satisfaire les besoins collectifs pour du bois de meilleure qualité, de la meilleure qualité possible en tout cas, par une sylviculture qui mène à une production optimale des arbres, notamment pour le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, c'est celui qui nous sert à construire nos charpentes, à fabriquer l'ameublement et bien d'autres objets. Alors, je rappelle que ça a déjà été dit tout à l'heure, 25% de la superficie de la forêt PACA ne sont pas disponibles pour la production à cause des statuts de protection et des réserves biologiques, des bois classés, etc. Des protections des captages. Donc les grands principes qui sont posés par le programme national de la forêt et du bois l'ont été par une réflexion concertée, partenariale, entre les professionnels de la forêt et les ministères. Ce programme donc a été édité, mais on a observé que dans la foulée, il existe une instance qui s'appelle l'autorité environnementale du Conseil général de développement durable, qui est une émanation du ministère de la Culture, de l'Alimentation et des Forêts, et qui a analysé ce programme et émis des réserves sur les effets probables que ces orientations ou actions stratégiques affichées par le plan risquaient d'engendrer. Alors, concernant l'objectif ambitieux d'accroissement de la mobilisation de la ressource disponible, l'autorité environnementale craint des impacts sur les sols et notamment sur l'eau, avec les chantiers mécanisés de récolte et également des impacts sur les dessertes forestières, c'est-à-dire les routes, les voies pour extraire le bois de la forêt, ce qui nécessitera de tracer des routes forestières, parce qu'aujourd'hui, pour faire une exploitation rentable de la forêt, il faut acheminer des énormes camions qu'on appelle des grumiers jusqu'au cœur des massifs forestiers, ce qui n'est pas toujours facile. Et de toute façon, ce qui engendre des coûts considérables, car il faut stabiliser les sols, faire des voies suffisamment larges pour permettre le passage de ces véhicules, ce qui crée des saignées dans le massif forestier non négligeables et très visibles. Et ensuite, ces camions, une fois qu'ils sont chargés, vont emprunter également les réseaux départementaux et nationaux et peuvent créer des problèmes sur ces voiries communales ou départementales. Donc c'est une remarque que l'agence environnementale a faite par rapport à cette volonté d'augmenter la mobilisation de la ressource. Concernant la priorité qui a été mise sur la récolte des peuplements anciens. Dans le programme, on a manifesté le vœu que soient exploités aussi des arbres anciens. Or, l'autorité environnementale signale que ces arbres, qui peuvent être parfois des arbres sénescents, Richard a parlé tout à l'heure de la mortalité naturelle des arbres, ou qui sont des arbres de très gros bois, peuvent abriter des espèces qui sont strictement inféodées au stade des arbres mûrs, des arbres au stade mature. Et dès lors qu'on vient à se débarrasser de ces arbres-là, on appauvrit toute une partie de la biodiversité qui est inféodée à ces arbres sénescents. Aujourd'hui, la sylviculture la plus répandue récolte des arbres à un stade de bois moins matures, qui sont généralement définis par un diamètre qui intéresse l'industrie. Donc c'est des arbres avec un optimum économique. Mais l'arbre, à lui, a vocation à vieillir et il entraîne avec lui une implantation de toute une biodiversité qui mérite d'être conservée. Concernant l'ambition du programme de relancer le rythme des plantations pour rééquilibrer l'offre des résineux, certaines adaptations de la forêt ont été envisagées pour répondre aux objectifs du changement, au changement climatique avec des effets qui sont parfois négatifs sur la biodiversité. Ainsi, on peut tout à fait replanter des résineux pour satisfaire les besoins industriels, mais on n'appauvrit par ce choix d'arbres la capacité de la forêt d'accueillir des espèces de biodiversité qui sont intéressantes. Concernant, j'en ai parlé tout à l'heure, le regroupement de la gestion par la mutualisation des opérations, pouvant convenir à une homogénéisation des pratiques, notamment par la création de plans de gestion. L'autorité environnementale conteste un peu le plan national de la forêt et du bois en disant que, certes, il peut être utile de recentrer, de réhomogénéiser des toutes petites parcelles, mais ça va générer des types de gestion, notamment des coupes rases, qui peuvent aussi être gênantes pour les paysages. Enfin, concernant le côté sanitaire de l'accroissement de l'utilisation du bois pour le chauffage, l'autorité environnementale fait remarquer que par le chauffage, par la combustion, on émet particulièrement des particules fines qui peuvent être dangereuses pour la santé. Alors, de son côté, France Nature Environnement, par son réseau forêt, indique que l'intensification de l'exploitation et de la transformation de nos forêts pour satisfaire l'industrie sont des impasses d'un point de vue du climat. Les solutions doivent être recherchées ailleurs en luttant contre le fléau de la déforestation, en favorisant le stockage du carbone dans les arbres et dans les sols le plus longtemps possible et en maintenant un maximum les essences feuillues, en augmentant la diversité au sein des espaces, des écosystèmes forestiers. C'est un enjeu fondamental pour la lutte contre le réchauffement par l'effet de serre. Le stockage du carbone naturellement tel qu'il se fait par la forêt, mais aussi par d'autres endroits sur la planète, sur la Terre comme en mer, la nature ne manque pas de ressources. Les océans, les végétaux absorbent chaque année la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Le carbone est stocké partout, dans les océans, dans les sols, dans la biosphère. Favoriser ce stockage naturel est donc la solution la moins coûteuse et la plus efficace rapidement. Mais en l'état actuel, on estime que cette capacité arrivera à saturation en 2050, c'est-à-dire demain. La restauration des milieux naturels et de leur fonctionnalité apparaît donc comme une priorité stratégique. Alors, comment préserver, comment améliorer le stockage naturel du carbone dans cette période de changement climatique? Bien, tout d'abord, en évitant de déforester les forêts primaires tropicales qui sont détruites principalement pour alimenter l'économie des pays industrialisés, ce qui contribue quand même à 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pays industrialisés doivent assumer leurs responsabilités dans ce désastre annoncé. Aujourd'hui, c'est financièrement rentable, mais ces filières ne tarderont pas à prouver la pleine mesure de leurs coûts écologiques, climatiques et humains. Les politiques actuelles visent à aligner la production forestière sur le modèle de l'agriculture intensive. C'est ainsi que, par la volonté qui est exprimée par le programme national Forêt-Bois, de recentrer les plantations sur des plantations de résineux qui ont une croissance plus rapide et qui peuvent être exploitées plus rapidement, on arrive à faire non plus de la sylviculture, mais de la plantation de la plantation d'arbres, un peu comme on plante du maïs ou du blé.
Ça s'appelle la ligniculture.
La ligniculture, voilà, c'est ça.
Comme on peut faire pour le pin maritime dans les Landes, ou voir les peupliers. Le cas le plus extrême, c'est les peupliers, bien sûr.
Donc, privilégier une exploitation qui respecte les capacités du milieu reste une valeur sûre, à la fois économique et écologique, pour préserver les puits de carbone de notre territoire. Également, l'agriculture de haute valeur environnementale, qui laisse une place à la nature et utilise peu d'intrants, est en première ligne pour répondre aux défis du changement climatique. Également, limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Quand je dis artificialisation des sols, j'entends toutes ces surfaces qui se grignotent progressivement et qui empêchent la forêt de s'implanter et qui empêchent par conséquent le stockage naturel du carbone par les sols. Ça devient une priorité qui est incontournable. Favoriser donc ce stockage naturel du carbone par les sols, c'est augmenter la teneur en matière organique, intensifier l'activité biologique et améliorer les capacités de rétention des eaux, car la forêt joue son rôle, un rôle très important dans, aussi bien dans la qualité que dans la quantité de l'eau. Pour FNE, qui considère généralement
donc FNE, c'est France Nature
France
Environnement.
France Nature Environnement, voilà. Qui considère l'intérêt général de l'humanité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la sobriété énergétique doit rester la priorité et préserver, restaurer le potentiel naturel des écosystèmes à capter et à stocker le carbone.
Est-ce qu'on fait une petite pause?
Ça serait bien.
Allez, volontiers.
Allez, on écoute Syracuse par Birelli Lagraine et Sylvain Luc. Thank you. On revient avec cette émission Un moment pour la Terre de France Nature Environnement, où nous parlions de la gestion forestière en région PACA. Et on va revenir avec Richard Haye sur la sous-exploitation forestière, justement, auquel vous avez manqué d'éléments tout à l'heure.
Voilà, revenons sur la sous-exploitation. Bon, Pierre vient de nous montrer, enfin, par le biais des études et des stratégies qui sont mises en place, qu'effectivement, la forêt était sous-gérée. On pouvait se mettre d'accord autour de ce fait-là. La forêt est sous-gérée. Pour ce qui est de la sous-exploitation, il faut peut-être aller gratter du côté de ce qui est exploité déjà actuellement. C'est le ministère de l'Agriculture qui nous donne les chiffres. Il nous dit, bon an, mal an, c'est un peu au-dessus de 700 000 mètres cubes par an qui est exploité en région PACA. Mais ces chiffres, c'est la déclaration des exploitants forestiers. Ce sont des données déclaratives. Donc, bon, c'est à prendre aussi avec précaution, mais c'est des données de la filière professionnelle. Ce qui échappe, c'est tout ce qui est la filière des particuliers, l'autoconsommation, le bois de chauffage, bien sûr. Tout ce qui est fait par vous, moi, on prend la tronçonneuse, on va couper un peu de bois. Tout ça, ça fait énormément de bois exploité en France et notamment en PACA. Pour cette donnée, l'ADEME a fait une étude auprès des ménages, une étude sur le chauffage domestique, qui a amené à dire que je crois qu'en France, je cherche un peu mes notes en même temps. Ils ont dit qu'en France, c'est 60% de la récolte de bois bûche qui échappe aux données statistiques. C'est-à-dire, pour le bois de chauffage, c'est 60% de la récolte qui échappe totalement aux données statistiques. Donc, ils ont creusé ce sujet et ils ont essayé d'affiner un peu ces volumes. Et pour la région PACA, on arrive, d'après leurs études, à une réalité qui serait de bois bûche récolté qui serait proche de 500 000 mètres cubes de bois récolté par an en PACA, sur des chiffres de la base 2013-2014. Alors que les professionnels, eux, déclarent 180 000 mètres cubes. Vous voyez le différentiel entre les deux. Alors si on ajoute ce différentiel aux 700 000 mètres cubes déclarés récoltés par les professionnels, on dépasse le million de mètres cubes récoltés en région PACA, en forêt. Donc déjà, on a une divergence. Les 700 000 mètres cubes sont avancés par les promoteurs du bois énergie. Déjà, c'est un chiffre qu'il faut contester parce qu'on récolte beaucoup plus que ça en PACA, sans parler des données qui échappent un peu, notamment les pertes de scierie et des choses comme ça. Donc on dépasse déjà le million de mètres cubes. Et avec un million de mètres cubes, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, on est à la moitié du potentiel de la ressource annuelle qui était 2 millions de mètres cubes. Déjà, on s'en rapproche. Ensuite, j'ai dit aussi que la forêt était jeune. Et si on veut qu'elle rende plus de services, on a parlé des services écosystémiques, Pierre en a parlé, de la protection de l'eau, des sols, de la fixation du carbone. On a tout intérêt à ce que la forêt continue à grandir un peu. Et à ce moment-là, on a intérêt à récolter moins que l'accroissement annuel. Donc on peut, et comme on est dans un contexte avec les enjeux qui ont été rappelés, un contexte où vraiment il faut forcer, il n'est pas prudent actuellement de se rapprocher de l'accroissement annuel. Alors la sous-exploitation de la forêt PACA, elle est vraiment contestable. À mes yeux, aux yeux de pas mal de forestiers, elle n'est pas sous-exploitée. Elle est exploitée à son potentiel actuel. On pourrait mieux la gérer, mieux la valoriser. Mais le prélèvement qui est fait dans cette ressource est tout à fait correct par rapport aux enjeux de notre territoire et des enjeux mondiaux.
Voilà une bonne nouvelle, alors.
Voilà plutôt une bonne nouvelle. Oui.
Il faudrait la laisser vieillir, cette forêt, pour continuer à capitaliser la croissance annuelle et stocker le carbone. C'est un enjeu majeur actuellement.
Voilà, maintenant on pourrait aborder le sujet de la biomasse.
Oui. Alors qu'est-ce que c'est la biomasse?
La biomasse, est-ce que c'est une véritable énergie renouvelable par rapport aux enjeux du carbone? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Hein, ce terme de biomasse, tel qu'il est compris par ceux qui y voient un potentiel d'énergie renouvelable, rassemble en fait tout un foisonnement de bioressources. Notons au préalable que si ces ressources naturelles existent pour certaines depuis l'origine de la vie sur la Terre, Elles ne présentent, pour la majorité d'entre elles, un intérêt énergétique pour les hommes que depuis que les ressources énergétiques fossiles ont été largement consommées et gaspillées, avec les effets négatifs que l'on connaît sur le climat et sur la santé. De plus, aujourd'hui, le développement technologique actuel permet d'envisager l'utilisation de ces bioressources. En étant très schématique, on peut dire que la biomasse énergétique, elle est composée de ressources agricoles, qui viennent donc de production végétale non alimentaire, des coproduits de filières végétales alimentaires comme la paille, les céréales, etc. De ressources sylvicoles, le bois forestier, on en a parlé, des peupleraies, le bois non forestier, qui est considéré aussi dans les zones de déprise agricole, les haies, les bosquets, les sartages, mais aussi des ressources qui viennent de la mer, des ressources aquatiques, la pêche, le poisson d'aquaculture, les plantes marines, les algues, tout ça, ça peut produire de l'énergie avec transformation. Et puis, il y a toutes les ressources industrielles de l'industrie agroalimentaire, transformation des matières animales et des ressources industrielles également liées au bois et au papier. Voilà. Et puis également, j'allais l'oublier, les ressources qui sont issues des déchets de bois en fin de vie, les cagettes, les palettes, les meubles, les déchets de chantier, les déchets verts, les déchets de stations d'épuration, les biodéchets alimentaires provenant de la distribution, de la restauration des ménages. Tout ça forme ce qu'on peut appeler la biomasse. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que aujourd'hui, on a surtout mis l'accent dans notre région sur l'exploitation du bois énergie, qui est la principale source, ce qu'on appelle la biomasse. Et c'est ainsi que on a caractérisé la centrale de Gardanne dont Richard va parler maintenant, sur qui est appelée centrale à biomasse.
Voilà, donc ça serait plus correct de dire centrale à bois, déjà, ça serait évident. Cette centrale Uniper, elle va consommer 950 000 mètres cubes de bois par an, de bois forestier issu des lagages, mais bon, en général, ça vient des massifs forestiers. On a calculé sur PACA la demande qui est exprimée d'ici 2025. Cette demande, ça sera 1 300 000 mètres cubes de bois, qui vont être demandés en bois énergie. Alors, il y a Gardanne, il y a Innova à Brignoles, il y a également tout ce qui est thermie, les projets qui sont contenus dans le schéma régional climat, air, énergie, le fameux SRCAE. Quand on totalise tout ça, c'est 1 300 000 mètres cubes. Alors, c'est assez difficile quand on regarde les documents, parce qu'on parle d'équivalence pétrole, on parle de tonnes, et donc il faut faire les conversions pour arriver à tout cumuler. Mais voilà, c'est un chiffre qui est correct, généralement admis. Et si on parle d'1 300 000 mètres cubes, on garde en mémoire qu'on en exploite déjà 1 million de mètres cubes dans la région, et que la ressource maximum disponible serait de 2 millions. 1 plus 1,3, ça fait 2,3. On dépasse la ressource disponible sur PACA. Bon, c'est pas grave. On peut aller le chercher ailleurs. On peut dire ça comme ça, finalement. Mais ailleurs, ben, ça va être pareil. Parce qu'en France, la demande d'ici 2026 du bois énergie va dépasser l'offre en France. C'est chiffré aussi. Ça, c'est des données qui ont été chiffrées dans une étude récente pour les auditeurs qui s'intéressent, faite par l'ADEME, qui est disponible sur le site, qui est la disponibilité des ressources forestières à l'horizon 2035. Je conseille à tout le monde d'aller le lire, c'est un peu poilu, mais bon, il y a une synthèse qui est assez accessible. Et on s'aperçoit qu'on aura une demande qui va excéder la ressource en France, notamment une demande énergétique. Alors bon, on va dire, on ne peut pas le prendre en France, on va aller le prendre ailleurs dans le monde. Ah ben, ailleurs dans le monde, c'est pareil. Alors là, le bilan carbone des transports, c'est quand même vraiment négatif, quoi. Il faut savoir aussi que dans le monde, ça c'est une source de données qui vient de la FAO, Food and pour l'agriculture et l'alimentation, l'organisation pour l'agriculture et l'alimentation, qui nous indique que sur la période 2000 à 2010, le solde de destruction de forêts est de 5 millions d'hectares par an. Ce qui fait que sur 10 ans, on a une superficie qui équivaut à celle de l'Espagne. Et ça, c'est des chiffres qui sont impressionnants. Donc, on ne peut pas se retrancher derrière notre petit doigt, très joli lapsus, en disant ben, on n'a pas chez nous, on va aller chercher ailleurs. Quoi. Déjà, il faut regarder ce qu'on a chez nous. Je vais m'arrêter là-dessus.
Oui, parce que est-ce qu'on parle des projets de France Nature Environnement?
Oui, je vais vous donner notre agenda pour le mois d'avril. Donc, le 4 avril, on va débuter une campagne pédagogique La Rivière m'a dit avec l'école des Mets, avec des classes de CE2 et de CM1. Le 6 avril, de 9h à 16h30, au MUI, se tiendra une journée d'information et d'échange sur le thème les tris et les recyclages des emballages plastiques. Le 7 et le 9 avril, à partir de 8h30, se tiendra à Vologne une manifestation qui est organisée par d'autres associations, notamment la Sistude, pour le Printemps des Castors, qui est une manifestation consacrée aux castors et à son milieu naturel, et que nous vous proposons de venir découvrir. Et à cette occasion-là, vous pourrez voir l'exposition sur la Durance pendant tout le week-end. Et nous vous invitons à une rando-découverte de l'environnement historique, culturel, économique, naturel et paysager de Vologne, le dimanche 9 avril à 14h30. Le rendez-vous, c'est 10 minutes avant le départ, à la salle polyvalente de Vologne. Voilà pour notre agenda du mois d'avril. Et puis, je peux signaler que nous sommes engagés également dans une action sur les sols.
Eh bien, je vous remercie. Et puis, eh bien, on va se quitter puisque c'est déjà l'heure. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet brûlant.
Okay, on vous remercie de nous avoir accueillis, en tout cas.
Merci. Et puis, ben, quand vous voulez, pour un autre moment de la Terre, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.